du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro du coq à l'âne, numéro 634, avec une tablée comme une tablée. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu exceptionnel. Nous ne sommes pas en direct ce vendredi soir avec vous, ni dimanche matin. D'ailleurs, vous le savez que l'émission est en direct le vendredi soir, rediffusée le dimanche matin. Nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi 26 septembre. Il a fallu qu'on enregistre l'émission pour un problème, technique, hein, mais peu importe. Toujours est-il qu'on est quand même ce jeudi 26 septembre et nous avons appris, il est 17h09 pour être très précis, il y a donc maintenant 5h, hein, si je ne m'abuse, la disparition du grand Jacques. Et oui, Jacques Chirac donc, qui s'est éteint aujourd'hui. Alors, ça, voilà, j'allais dire ça tombe bien. Non, ça tombe pas bien, bien sûr, mais on est réunis autour de cette table et évidemment, on n'avait pas pensé à ce sujet. Alors évidemment, ce sujet, eh bien, on va en parler avec Michel Roussel. Salut Mimi.
Salut, bonjour.
Nous avons Pierre-Louis Rouni qui est là.
Bonjour.
Nous avons Bruno André.
Bonsoir.
Nous avons Jeannot, Jean Cointe.
Bonjour.
Et notre invité donc, Thierry Beau, le directeur de La Petite Ours. Salut Thierry.
Bonjour.
Alors ben voilà, eh ben oui, il fallait bien que ça arrive un jour, vous allez me dire. Mais c'est beaucoup d'émotions, enfin, je sais pas, vous avez certainement suivi ça, puisque c'est incontournable, hein, ça tourne en boucle depuis ce midi. On ressent énormément d'émotions, comme à chaque fois d'ailleurs qu'une grande personnalité, par la taille et par autre chose d'ailleurs, en ce qui concerne Jacques Chirac, nous quitte. Une première réaction de Thierry, qui a appris ça comme tout le monde, à midi pile, voilà, tout simplement. Simplement en allumant ton Facebook ou un réseau, je ne sais pas lequel.
Sur le site du Monde.
C'était sur le site du Monde.
Sur le site du Monde.
Mais... Et ta première réaction, ça a été quoi? Alors, voilà, Jacques Chirac.
Alors, on a beau s'y attendre, ça surprend toujours. Ça fait de la peine dans la mesure où c'est un personnage... Moi, j'ai grandi avec lui, je suis né en 73.
Ouais.
J'ai commencé à m'intéresser à la politique, on va dire, une dizaine d'années, on en parlait tout à l'heure devant les émissions de télé, c'est un personnage de télévision. Donc c'était quelqu'un qui marquait les esprits, sa grande dégaine, etc. Et puis c'est quelqu'un qui a marqué, qu'on le veuille ou non, qui a marqué l'histoire du pays. Alors après, il a une face obscure,
ouais.
C'est peut-être pas le moment vraiment de la rappeler. Il est d'autant plus sympathique qu'il est éloigné du pouvoir.
Oui, aujourd'hui, bien sûr.
Je disais tout à l'heure aussi, il était très impopulaire quand il était président de la République. D'autres ont fait... mieux ou pire, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, mais les records ont été battus depuis. Mais ça restait un personnage et c'est une partie de moi, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est une partie de ma jeunesse quelque part qui disparaît, donc ça touche.
Comme beaucoup autour de cette table, une bonne partie de notre vie à nous tous. Jeannot ?
Oui, moi je sais que j'ai toujours été affecté par la disparition des présidents de la République successifs parce que...
Surtout le général ?
Le général, j'étais en terminale, donc au lycée.
Ouais.
Pour ce qui concerne Pompidou aussi, c'était malheureusement...
Je m'en souviens bien.
À l'université, je m'en souviens très bien aussi.
Je m'en souviens de l'annonce à la télévision.
J'ai été affecté aussi par le départ de François Mitterrand, parce que François Mitterrand a quand même été dans l'histoire un président... un petit peu à part, mais un peu respectable
moi.
Aussi.
Et ben moins, beaucoup moins, moi. C'est marrant. Hein.
C'est marrant, ça.
Je sais pas.
D'ailleurs,
je sais pas.
Chirac avait d'ailleurs prononcé à cet effet un éloge funèbre tout à fait convaincant.
Oui.
Et voilà pourquoi on se rappelle de ce qu'on appelle en anglais les milestones, c'est-à-dire ces grandes heures de la République qui nous affectent directement ou indirectement.
Et Michel ?
C'est pareil, moi, c'est vrai que je retiens un côté sur sa ruralité. C'est quelqu'un qui était proche des gens, qui était souvent... dans le secteur de la campagne. Et c'est quelque chose qui, moi, effectivement, a retenu mon attention. Après, c'était quelqu'un qui était accessible, c'est quelqu'un qui était sympa. En tant que président, il a fait ce qu'il a fait. Bon, pas tout était parfait, clairement, il faut le dire. Mais bon, comme vous venez de le dire, il était aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il n'était plus sur la scène politique, donc difficile de le critiquer sur des faits récents. Non, c'était quelqu'un qui était, d'une certaine manière, attachant.
Voilà. Président le plus populaire aujourd'hui, oui. Hein, pour les Français, hein, et de loin devant les autres. Hein. Oui,
je crois que c'est le seul... Je pars sous le contrôle de Jean Cointe qui a une mémoire là-dessus. Je pense que c'est le seul qui est venu faire la campagne électorale présidentielle dans le Champsaur.
Tout à fait.
Ah oui.
Je ne sais même pas si c'est même pas le seul président de la République qui ait jamais mis les pieds dans le Champsaur, mais il était passé la campagne de 95 à Ancel.
Exactement. Vous pouvez lire l'interview de Henriette Martinez sur Facebook qui rappelle ces
passages.
Précisément ces passages.
Mmh, mmh. Et quand on dit que c'était quelqu'un qui était proche de la ruralité. Il n'en est pas passé beaucoup, les présidents de la République dans les Hautes-Alpes, et pas beaucoup pendant les campagnes, parce que généralement, on est...
Hey. Il aimait bien, tâter le cul des vaches, hein, on le sait, hein, régulièrement. Il allait à Paris, au salon de l'agriculture, et à chaque fois, il s'envoyait une petite mousse dès 10h du matin avec quelques rondelles de saucisson, et allait tâter le cul des vaches. Ça te faisait plaisir, toi, Bruno André ?
Ah oui, tout à fait. C'est vrai que Chirac, c'était un grand homme pour l'agriculture. L'agriculture, il a été ministre de l'agriculture en 73, et il est un petit peu à l'origine de la loi Montagne et de la compensation de handicap de la Montagne.
Spécifique Montagne.
C'est lui, en 73, oui. C'est ce qui est aujourd'hui remplacé par l'ICHN, l'indemnité compensatoire handicap naturel. Donc c'est lui qui a, parce que c'était un élu du terroir aussi, c'était ouais. un élu de Corrèze, il a fait toute sa carrière politique en Corrèze. Moi, j'ai des amis en Corrèze et je me rappelle du père d'une amie qui me disait, qui était de gauche, hein, c'était quelqu'un qui n'était pas de droite, mais il votait Chirac. Il me disait, je vote Chirac parce que c'est un homme. Non, mais c'est un homme avec un grand H. Hein,
D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il est aimé, parce que je pense que les Français le prennent comme nous. Voilà, c'était quelqu'un comme tout le monde, on a le sentiment. Pierre Luroni.
Alors moi, le souvenir que j'ai de lui, je pense à ce que l'on peut penser et ce que j'ai pensé des présidents lorsqu'ils étaient élus et une fois qu'ils avaient terminé leur septennat ou quinquennat. S'agissant de lui déjà, comme j'ai dû gagner comme tout le monde une fois sur deux, c'est le seul pour lequel j'ai levé les bras quand il a gagné, en étant vraiment heureux. Voilà, parce que j'avais voté pour lui.
Pourtant, tu m'avais dit qu'Emmanuel Macron, tu t'es mis à genoux.
Non, pas du tout. Non, mais sans prononcer sur Macron. Et en plus, il n'a pas terminé son quinquennat. Donc, voilà. Parce qu'on ne pense pas forcément toujours la même chose au début et à la fin.
Oui.
Mais de lui, c'est vrai que j'étais vraiment très, très content. Enfin, c'est le seul pour lequel j'étais vraiment content qu'il gagne.
Moi aussi.
Après, sur le côté sympathique.
J'aurais aimé ce mec-là.
Ça, c'est resté.
Ouais.
C'est resté. Parce qu'il y a des gens que tu ne trouves pas forcément sympathiques. Ou le contraire. Et puis, ça change au fur et à mesure que le temps passe. Lui, je l'ai toujours trouvé très, très sympathique. Même si j'avais trouvé certaines positions, notamment lorsqu'il avait dissous l'Assemblée nationale, un peu politique. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'était un gars qui était sympa. Il était moderne. Alors ça peut paraître curieux de dire ça maintenant, parce qu'il y en a depuis qui ont gagné peut-être en modernité, mais ça faisait plus anachronique à l'époque, enfin, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il était vraiment l'histoire des pommes, l'histoire des émissions... de télé qu'il faisait avec des gens qui étaient improbables avant.
Dans les stabulations.
Voilà. Il était pas mal. Voilà.
Ouais. C'était un grand Européen aussi. Hein. Je veux dire, il portait vraiment l'Europe dans son cœur.
Il aimait la France.
Ouais. Ce qui était rigolo, c'est qu'il est devenu Européen en devenant président de la République. Mmh. J'écoutais la radio comme tout le monde cet après-midi. Mmh. Et on rappelait l'appel de Cochin. À un moment donné, il avait une position qui était très, très anti-européenne. Et puis, il a évolué comme ça en prenant les responsabilités. Après, c'est... Je disais tout à l'heure, et c'est ambigu. Moi, il y a quelque chose que je lui pardonnerai jamais, c'est le bruit et l'odeur.
Ah.
Ça, j'ai jamais compris comment lui, qui après s'est posé comme un opposant majeur à Le Pen et a été l'idéologue du barrage pour empêcher cette fusion entre une certaine partie de la droite et le Front National, comment il a pu se laisser aller à cette bêtise-là.
Cette bêtise-là.
La deuxième grande citation, c'est celle d'Afrique du Sud, par contre, en 2002, où il parle de la maison qui brûle.
Ouais.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Mmh. Et qui est quand même quelque chose d'historique. C'est un président de la République qui acte le problème écologique.
Visionnaire.
Même si derrière, ça n'a pas forcément suivi. Mmh. Mais il a été un des premiers à dire et à poser sur la table la maison qui brûle, l'image elle est forte.
Pour ceux qui ne se souviennent pas, écoutez.
Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou.
C'était lors d'un meeting qu'il avait lancé.
Quand tu étudies un peu le personnage, tu te rends un peu, c'est pas lui.
C'est quoi. Pas lui.
C'est
oui.
Une connerie de campagne. T'as l'impression que c'est un truc, c'est Pasqua qui lui a écrit le texte. Non, puis, après, à sa décharge aussi, aujourd'hui, Zemmour, il dit deux fois pire. Et ça passe en boucle à la télé et ça choque plus personne. Ce qu'on appelait à l'époque la lepenisation des esprits. Mais il était capable de ce type de dérapage un peu.
À l'époque, c'était pas raciste. À l'époque. Non, faut se remettre dans le contexte.
C'est ce qu'il dit à la fin de la phrase. Il dit ce n'est pas raciste que de dire cela.
Ouais. Oui, mais c'est à l'époque. Il faut écouter Coluche à l'époque.
Et c'est vrai voilà. Que Coluche, il en avait quand même quelques-unes de sévères. Hein.
Ouais.
Mais c'était Coluche.
Oui,
c'était un humoriste. Il ne
faut pas les comparer.
C'était pas un homme politique, et puis il y avait du second degré derrière.
Jeannot Chirac, c'était quand même un tueur politique aussi.
Oui, mais bien sûr que ça a été quelqu'un qui a été réputé pour mener des combats politiques, on va dire, à la hussarde.
Oui, c'est ça. On peut se souvenir, je vais vous faire écouter quelque chose, on peut se souvenir de ce passage-là, lorsqu'il est Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, 76, il démissionne. Vous en souvenez ?
Bien sûr.
Écoutez.
Il est 11h35 lorsque M. François Poncet arrive.
À l'issue du Conseil, M. Jacques Chirac, Premier ministre, a présenté la démission du gouvernement. Le président de la République, en application de l'article 8 de la Constitution, a mis fin à ses fonctions. Il a adressé au gouvernement ses remerciements pour l'œuvre de réforme accomplie depuis 2 ans à travers des circonstances économiques mondiales difficiles.
Déjà.
Et pour le dévouement avec lequel le Premier ministre et les membres du gouvernement ont apporté leur concours à l'indispensable renouveau de la France.
Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Je l'avais préalablement informé de mon intention. En effet, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaire pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre.
Est-ce qu'on peut dire que c'était à partir de ce moment-là qu'il s'est vraiment fâché avec Valéry Giscard d'Estaing, Jeannot, hein, et qu'il avait d'autres ambitions ?
Non, il y a eu une inimitié constante, puisque Chirac était le protégé de Pompidou, bien entendu. Georges Pompidou était très proche de Georges Pompidou et il est clair que...
Non, Georges Pompidou était très proche de Jacques Chirac, tu veux dire.
Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que déjà, il y a eu une altercation assez sévère au moment où Giscard d'Estaing était ministre des Finances du gouvernement, je crois, de Pompidou, et dans sa brève période de présidence de la République, et où Chirac a obtenu qu'on rapporte un certain nombre de dispositions de la loi de finances relatives aux agriculteurs qui leur étaient défavorables. Et ce, pendant que Giscard était en voyage officiel, je ne sais plus dans quel pays.
C'est beaucoup
la fameuse taxe, la fameuse taxe sur les fruits et légumes.
Je pense. Ouais.
C'est ça.
Alors, ce qui veut dire en clair que, bon, c'est l'alliance de la carpe et du lapin, c'est-à-dire que Chirac a été obligé de composer, évidemment, avec Giscard d'Estaing, qui était le favori de l'élection présidentielle de 1974, parce que Chaban Delmas, il n'y croyait pas une seconde, et c'est la vérité, parce que Chaban Delmas, il a malheureusement été très rapidement oublié du grand public. Et j'ajoute que à partir de ce moment-là, Giscard a essayé de lui mettre tout un tas d'embûches en nommant un certain nombre de ministres giscardiens, comme par exemple Poniatowski, le prince Poniatowski, comme ministre d'État, donc numéro 2 du gouvernement après Chirac. Et puis il y a d'autres, giscardiens qui ont été maintenus malgré que Chirac ait demandé expressément leur départ. Donc, ce qui veut dire en clair qu'en 1976, c'est la fin logique d'une collaboration qui était en demi-teinte. Et il a fallu effectivement l'éclat de l'élection à la mairie de Paris pour foutre dehors le candidat officiel de Giscard, qui était le comte d'Ornano, que le canard enchaîné surnommait le pauvre comte d'Ornano. Donc effectivement, Chirac ait une ligne claire en opposition avec Giscard, ce qui fait que ça a indubitablement conduit Giscard à la défaite de 81.
Oui, parce que ça c'est encore après. C'est-à-dire que là, après, donc il a été élu à la mairie de Paris, faut pas l'oublier quand même, il a été maire de Paris, jusqu'au moment où il a voulu se présenter effectivement donc en 81. Pour finir, il s'est pas présenté en 81. Si, il s'est présenté en 80. Il s'est présenté en 81. Et ensuite, comme Giscard était devant lui, évidemment, il a tout fait pour faire perdre Giscard et faire gagner Mitterrand.
Comme Giscard avait fait au général de Gaulle, oui, mais en 1969, le 7 avril.
Les tueurs politiques, quoi.
Tout à fait, oui.
Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on se lance dans la politique, arrivé à un certain niveau, on est obligé de devenir tueur ou sinon on se fait tuer ?
Je pense, oui.
Oui, Thierry ?
Oui.
Hein, c'est ça.
À ce niveau-là, effectivement, c'est des gens qui voient loin. Ils laissent passer la présidentielle de 81 pour se placer lui sur 88 et 95.
Oui. Et il faut voir loin, quoi. C'est une partie d'échec.
C'est des gars qui ont des instincts qui sont.
Ouais. Et alors, un autre fait marquant de la présidence Chirac, c'est 1995, je crois, c'est ça ?
Oui, 95. C'est la première élection.
Ouais. Et 1997, 1997, ça c'est un passage que tu aimes bien, on va écouter oui. Deux secondes.
Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale.
Merci de Villepin.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh, la bonne idée.
La riche idée.
La riche idée. Alors, un petit mot là-dessus.
Je dirais que ça a été...
Sa plus belle connerie.
Politiquement, non.
Politiquement, ça a été...
C'est brillant. Politiquement, pour lui, c'est brillant. Il est repassé après.
Oui, il s'est retrouvé avec dans les pattes Lionel Jospin.
Le retour des fourgons des socialistes, bien entendu.
Oui.
Avec Jean-Claude Guessot qui s'est empressé d'enterrer le projet d'autoroute.
Tu vois qu'il avait bien fait finalement de faire cette dissolution. Il y a des points positifs.
Alors le point positif pour toi, Thierry, c'est qu'il n'y ait pas l'autoroute.
Ah bien sûr. Ah.
Ça a entraîné le changement.
Chasser le naturel.
Députés, donc ici, dans la première circonscription, Henriette Martinez a été obligée de s'incliner vis-à-vis de Daniel Chevalier.
Daniel Chevalier, revenu, absolument.
Aux affaires, en fait, ça a été. Donc, autrement dit, ça a été pour nous une catastrophe en tant qu'électeurs de droite traditionnelle. Et surtout, moi, je pense que l'autoroute avait une chance de se faire Les dossiers étaient déposés, enfin on va pas.
Oui, on va pas refaire le monde. Oui.
C'est peut-être pas en haut lieu que ça s'est décidé quand même. La plus grosse connerie, elle a peut-être fait un local.
Ah, alors la connerie locale de Pierre Bernard Raymond.
Bah, si tout le monde avait été d'accord sur le tracé.
Ça fait longtemps qu'on avait parlé du tracé de Pierre Bernard Raymond.
Moi je dis ça, je dirais.
Cela étant, je pense que Galouzo de Villepin a été d'un conseil complètement erroné, on va dire.
Faut le recontextualiser. Il avait une législative en 98 qui allait arriver. Il avait des perspectives de croissance abominables. Il savait qu'il allait se toller en 98. Finalement, quand il dissout, tout le monde dit que c'est une connerie. Résultat des courses en 2002.
Il est réélu.
Ça ne serait pas forcément passé comme ça en 2002.
Oui, mais enfin, 2002, tu te souviens quand même. C'est passé quand même un truc un peu bizarre.
Jospin arrive épuisé par les 50 cohabitations. Un premier ministre qui devient président de la République, ça ne s'est jamais vu.
Ouais.
Et jusqu'à preuve du contraire, ça ne s'est toujours pas jamais vu. Donc finalement, ce qui pouvait apparaître comme une bêtise, au final, il fait deux mandats.
Parce que vous pensez que le jour où il décide de dissoudre l'Assemblée nationale, il sait qu'il va perdre la majorité et qu'il va rentrer dans une cohabitation ?
Non.
Si,
je pense qu'il est sûr que.
Oui.
Alors,
à l'époque, je me rappelle.
Pas tous à la fois, s'il vous plaît.
C'était déjà pour gagner les prochaines élections. Parce que les gens ne voulaient plus de la droite à cette époque-là. Donc il a anticipé en se disant il vaut mieux que la gauche passe maintenant, parce qu'elle va faire comme nous, mais comme ça se passe depuis.
Elle va faire comme lui. Oui, lui comme a nous, été oui. Premier ministre.
Mais comme nous,
de la cohabitation. Avec Mitterrand.
C'est qu'à cette époque-là, bon, là, c'est un peu en train de changer parce que finalement, à force de faire un coup à droite, un coup à gauche, ça a fatigué la totalité des Français.
Là, on fait un coup, on ne sait pas où.
Mais à cette époque-là, c'était ça. Et lui, il invente un truc qui est pas mal, c'est la cohabitation, voilà.
C'est Mitterrand qui l'a inventé.
La cohabitation voulue. Voilà.
Chirac a eu le culot d'accepter la première cohabitation.
C'est lui qui a eu les points avant.
Oui. Il n'a jamais eu. C'est Chirac qui a été.
Entre
droite et gauche.
Je vous rappelle que la Constitution n'est pas prévue pour fonctionner en cohabitation. Les institutions ne sont pas faites pour ça. Et que. C'est vrai que c'est Mitterrand qui, ne voulant pas laisser la place, a maintenu ce système, a créé un système complètement paralysant pour les institutions, qui a été effectivement perduré par cette cohabitation dont Chirac a cette fois-ci été la victime. Voilà. Enfin, c'est pas très drôle dans les institutions internationales de voir un président de droite et accompagné d'un premier ministre de gauche, sachant très bien que leurs prérogatives ne sont nullement contestées, mais sont contradictoires.
On a eu Balladur aussi, qui avait fait la cohabitation avec Tonton, aussi. Il y a eu Balladur, il y a eu Chirac et il y a eu Jospin. On a eu trois cohabitations.
Il a fait passer le quinquennat, il a réglé le problème.
Oui.
Mais en même temps, ça a créé la politique, donc...
La chose singulière aussi dans ces fonctionnements d'institutions, en 2002, avec cette ce plébiscite qui a été accordé à Jacques Chirac, justement, pour éviter que l'extrême droite ne passe. Ça, c'est quelque chose qui est absolument unique dans notre histoire constitutionnelle et dans notre histoire des institutions, de voir un président élu à 75 ou 80%.
Oui, oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, cela dit, là, on voit le côté, j'allais dire, sympathique de notre président. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il a eu quelques casseroles, comme beaucoup de politiques, hein, quelques-unes. Bon, il est passé entre les gouttes, visiblement, mais il y en a d'autres qui ont payé pour lui.
Tout à fait.
Juppé, en Juppé, particulier.
Juppé,
ouais.
Le meilleur d'entre nous.
Hein
ouais, il a quand même été, il a quand même fini condamné. Chirac, en 2012, il a été
oui,
condamné.
Mais il ne s'est pas rendu au procès. Mais il ne pouvait pas y aller, il était malade.
Il a une collection de casseroles qui est quand même assez impressionnante. Après, c'est peut-être le fait d'avoir été au pouvoir.
Je vous propose d'écouter, justement, à cette époque-là, pourquoi il n'allait pas donc, au procès où il était convoqué, en quelque sorte. Bon, évidemment, c'est un petit clin d'œil. Hein.
Moi, je suis maintenant en compagnie de Jacques Chirac.
Ah bon? Et il arrive à quelle heure? On l'attend ou pas?
Non, mais c'est vous, Jacques Chirac.
Ah, mince.
Pourquoi mince?
Ah, parce que si ça avait été vous, vous auriez pu aller au procès à ma place. Vous avez l'air d'aller bien, vous.
Mais vous, vous allez si mal que ça?
Ah oui. N'avez pas reçu mon certificat médical?
Non.
Pourtant, que maman l'envoyait partout, hein. Tribunaux, journalistes, impôts, Air France, télépoche.
Air France et télépoche?
Bah ben, ouais. Paraît que t'as des réducts quand t'es ma boule. Bachelot, elle paye jamais le train, hein. Oh, ça, pas, non. Ben quoi, c'est moi le malade, j'ai le droit de rire un peu, non? Je souffre d'agonostosie, là, je sais pas quoi.
C'est, non, anosognosie, le nom. Mais c'est quoi, cette maladie, au juste?
Ah ben, en grec, anosognosie, ça signifie très exactement entonnoir sur la tête. Je suis ma boule, je suis dingo, je suis toc-toc.
Mon Dieu, mais quel drame.
On me plaignait pas, d'abord, il y a des avantages. On me pardonne tout. Je fais mes courses en peignoir, je pars des bars sans payer, je mets des mains aux fesses à tout ce qui bouge, je peux tout faire, je suis toc-toc.